Voici venu le temps de reposer et de poser à nouveau nos vies dans une parole, une présence, une douceur, une dynamique. Voici venu le temps de donner de l'espace à notre intériorité, notre âme, notre prière, notre conscience. Voici venu le temps de respirer au large, au frais, au vent, au souffle qui nous porte les uns vers les autres, qui nous rassemble les uns aux autres, que nous soyons en présence dans ce temple ou à distance par le moyen des réseaux sociaux. La grâce et la paix de Dieu sont avec nous tous ce matin, qu'elle nous achemine vers la joie qui est au-dessus de toute joie. Je vous invite à prier. Dieu notre Père, que ton souffle vienne en nous, entre nous. Qu'il déplie les évidences, qu'il chasse les froideurs et les raideurs, qu'il ranime notre mémoire comme notre élan, et qu'il nous tienne en éveil, en vie, en joie, dans ta bénédiction. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter le premier des spontanés. Restons debout pour le temps de la louange. Dieu un, Dieu vivant, tu es pour nous si riche et si divers. En toi, nous ne voyons pas d'ombre ni de division, et pourtant tu te fais singulier à chacun, si proche de chaque personne en tes divins accents. Tu es avec et pour tous, tu es avec et pour chacun, toujours un. Dans l'épreuve de nos luttes, dans les défis de l'espérance, sur les chemins de la liberté, dans les dépassements de nos pardons, tu ne cesses de te donner et de souffler ta grâce unifiante au cœur de nos dispersions. Merci pour les témoins de l'Évangile qui nous ont précédés et qui nous accompagnent. Merci pour ces écritures où se révèle ta volonté de vie et d'amour. Merci pour ce jour où nous nous tournons les uns avec les autres vers l'un, vers toi, Dieu un, Dieu vivant. Amen. Et nous poursuivrons la louange en chantant au psaume 103 les strophes 1, 4, 5 et 6 du psaume 103. Bénis ton Dieu, mon âme, en toutes choses.
Je t'en prie,
Prenez place. Voici comment nous pouvons entendre la volonté de Dieu pour nos vies. Aujourd'hui et chaque jour, Dieu nous encourage à mettre au premier plan de notre vie l'amour, à mettre au premier plan de notre vie le désir de justice pour tous. Ce que Dieu veut, ce sont des femmes et des hommes debout, vivants, et qui habitent pleinement leur propre existence, car ils sont tous ses filles et ses fils. Ceci est vrai. Nous nous recueillons chacun et ensemble et nous nous tournons vers l'Éternel. Comme elles sont nombreuses, les chaînes qui nous entravent. Père, tu le sais mieux que nous, tu les vois mieux que nous. Nous ne savons pas toujours nous en débarrasser. Et parfois même nous y tenons, nous les tenons bien serrées. Nous nous épuisons à les porter, à les traîner. Parfois même, nous essayons de les faire porter par d'autres. De notre orgueil à nos rancœurs, de nos préjugés à nos inconsciences, ces chaînes sont nombreuses. Père, tu le sais mieux que nous, tu les vois mieux que nous. Tu sais aussi que même nos bonnes intentions peuvent se transformer en boulets, que nos traditions peuvent devenir de lourds maillons, que nos paroles peuvent nous lier et lier autrui. Et nous voici en difficulté, en souffrance, ralentis, immobilisés. Père, viens à notre secours. Amen.
Thank you.
Amis frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour entendre l'annonce du pardon. C'est fou toutes ces chaînes qui nous entravent, mais il y a plus fou encore ce qui arrive quand nous laissons Dieu s'en saisir. Alors nous entendons de tout notre être des paroles comme celles que l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, car le Seigneur est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ainsi, Jésus le Christ n'est pas venu porter nos chaînes, mais annoncer qu'elles sont brisées. Et son Esprit le redit à notre esprit. Nous vivons en lui une liberté sans mesure, fruit de son amour sans mesure. Amen. Et je vous invite à chanter au cantique numéro 153. Mon cœur rempli des biens que Dieu m'envoie. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Nous prions. Nous t'en prions, notre Père. Crée en nous le silence et l'apaisement. Un espace intérieur dégagé afin que ta parole y pénètre, y demeure et nous conduise en humanité, en louange et en présence agissante dans ce monde. Amen. Je vous propose de lire ce matin dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 13, les versets 10 à 17. Jésus enseignait dans une des synagogues un jour de sabbat. Or, il y avait là une femme rendue infirme par un esprit depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. Quand Jésus la vit, il l'appela et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité ». Et il lui imposa les mains. À l'instant même, elle se redressa et se mit à glorifier Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné parce que Jésus avait réalisé cette guérison pendant le sabbat, disait à la foule : Il y a 6 jours pendant lesquels il faut travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répondit : « Hypocrite, chacun de vous, pendant le sabbat, ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener boire ? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que le Satan tenait liée depuis 18 ans, il n'aurait pas fallu la détacher de ce lien le jour du sabbat ? » Tandis qu'il disait cela, tous ses adversaires étaient pris de confusion, et toute la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Ce petit récit de Luc, c'est une merveille. Un récit extrêmement bien construit et dans lequel l'art de Luc déploie toute sa subtilité. L'évangéliste propose 3 points de vue, desquels découlent 3 questions. Enfin, 3 questions au moins, car d'autres reposent dans les interprétations des détails et de l'ensemble. Mais 3 seulement pour notre méditation de ce jour. Le premier point de vue est celui de Jésus, le deuxième est celui du chef de la synagogue, et le troisième, celui de la femme courbée et redressée. Tout commence avec le regard de Jésus. Au commencement, il y a le regard de Jésus. Jésus voit. Il enseigne dans une synagogue un jour de sabbat, ce qui n'est pas une situation exceptionnelle dans les évangiles. Jésus est reconnu comme un rabbi, un maître, un enseignant des Écritures et de leur interprétation. Et les évangélistes mettent en scène à plusieurs reprises l'accueil ou la contestation de cet enseignement, l'émerveillement ou la colère de ceux qui l'entendent. Donc Jésus enseigne jusqu'au moment où il voit la femme courbée. Et aussitôt, il cesse son enseignement. Il s'adresse à la femme en lui signifiant sa libération, puis il lui impose les mains. La femme se redresse. Jésus n'a pas attendu d'avoir terminé ce qu'il avait à dire dans son enseignement. Il n'attend pas pour annoncer la délivrance et pour imposer les mains. C'est une urgence qui requiert une autre parole qu'une parole d'enseignement. C'est dire que lorsque Jésus parle, il ne perd pas de vue les personnes présentes. Il ne se met pas au centre de sa propre attention d'enseignant. Il reste attentif à celles et ceux qui sont là. Et de son point de vue, cette femme courbée est prioritaire sur toute autre considération. Prioritaire sur son enseignement. Prioritaire sur la foule qui l'écoute. Prioritaire face à la loi du sabbat. Et c'est la première question posée par le récit. Plus profondément même que la question du sabbat, la question des priorités, qui est celle du sens donné à telle ou telle action, à telle ou telle circonstance, à tel ou tel temps, à telle ou telle personne. Car après tout, la femme n'avait rien demandé pour elle. Personne n'avait rien demandé pour elle. Et puisque Luc précise qu'elle était ainsi courbée depuis 18 ans, d'aucuns pourraient se dire qu'elle pouvait bien attendre encore 5 minutes, ou même 1 heure, si jamais Jésus avait eu beaucoup de choses à dire. Mais pour Jésus, il est hors de question de laisser la femme courbée, ne serait-ce qu'une minute de plus dans cet état. Il ne la fait pas attendre. La souffrance qu'il voit en elle ne supporte pas de délai. La souffrance qu'il voit ne le laisse jamais tranquille. Pour autant, Jésus ne passe pas tout son temps à guérir tous les malades. Il ne rentre pas dans toutes les maisons pour savoir s'il y a quelqu'un à délivrer. Mais cette femme qui est là, dans la synagogue, devant ses yeux, passe avant tout, bien sûr avant lui-même. Il est pourtant tellement facile de s'habituer à la souffrance, de s'habituer à voir la misère, le malheur. Il est tellement facile de mettre de côté dans son champ de vision les courbés, les abîmés, les fracassés de l'existence qui sont tout proches. D'autant plus facile que les logiques d'une société comme la nôtre y poussent, puisqu'il s'agit entre autres d'une logique de rentabilité, impliquant donc qu'il y ait des laissés pour compte, des exclus de la compétition. Mais Jésus, selon l'Évangile, donne la priorité à l'humain qui a besoin d'aide. Pas question de s'habituer. Beaucoup d'œuvres et mouvements issus de l'action des églises donnent réalité à cette priorité. Par exemple, la CIMADE ou le CASP, l'Armée du Salut ou le mouvement du christianisme social et bien d'autres encore. Autant d'actions et de protestations qui refusent l'indifférence ou la résignation. Il est tellement facile de ne plus voir, sans même s'en rendre compte, d'accepter que le malheur et la souffrance soient installés comme si c'était normal, comme si c'était une fatalité. Il n'y a pas dans l'Évangile de Luc de visée de culpabilisation des lecteurs, mais il pose la question de la priorité, et c'est une question pour les consciences. C'est une question comme un rappel de ce que l'amour du prochain est le second commandement semblable au premier de l'amour de Dieu. Et tout cela n'empêche pas Jésus de mettre les points sur les i en répondant fermement, voire vertement, au chef de la synagogue. Le deuxième point de vue, celui de la loi, celui de l'ordre, celui du pouvoir. Le chef de la synagogue n'entre pas en controverse directe avec Jésus, vous l'aurez noté. Il ne lui dit pas clairement, comme d'autres le font dans d'autres récits des évangiles, « Il n'est pas permis de guérir le jour du sabbat ». Ce chef de synagogue-là veut faire preuve de subtilité. Il s'adresse à la foule en rappelant le règlement et en généralisant la situation. Il y a 6 jours pendant lesquels il faut travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non celui du sabbat, le 7e. Ou comment porter une accusation sans mentionner ce que l'on accuse? Et encore, comment rendre à nouveau invisible celle qui a été redressée? Car sans le dire, le chef de la synagogue s'en prend à la femme pour s'en prendre à Jésus. C'est la femme courbée, la fautive. La femme courbée est coupable d'avoir provoqué ce scandale. Si elle n'était pas venue à la synagogue ce jour-là, rien ne se serait passé. Jésus aurait terminé son enseignement, on aurait pu discuter avec lui après éventuellement, et tout se serait gentiment terminé. Mais la femme est venue, et sa présence a poussé Jésus à agir le jour du sabbat. C'est tellement facile de désigner un coupable, peut-être encore plus une coupable, redressée mais fautive, délivrée mais condamnable. De quoi ployer à nouveau sous ce regard-là, lancé de ce point de vue-là, de quoi être écrasé encore par ce pouvoir du chef de la synagogue, par son jugement, même déclaré de biais, indirectement. De quoi être courbé par son mépris d'homme sûr de sa supériorité. Alors comment ne pas penser à ces femmes courbées sous le poids de lois, de règlements, de jugements, de condamnations et qui ne supportent plus de ne pas être considérées comme des êtres humains, ces femmes iraniennes, ces femmes afghanes et d'autres femmes ailleurs et dans ce pays même, des femmes qui veulent pouvoir se redresser en vis-à-vis d'humanité pour tous. Courber les femmes ne rend pas les hommes plus grands. Invisibiliser les femmes ne rend pas les hommes forts. Et réciproquement. Du point de vue du chef de la synagogue, la femme courbée, son malheur de 18 ans, ça n'est pas prioritaire. Il ne veut pas d'exception pour elle. Il la signe à l'écart et reste courbée. La question là, c'est celle du regard porté sur l'autre, ce regard de supériorité qui finit par ne plus vouloir voir celles et ceux qu'on juge inférieurs, mineurs. Mais Jésus non plus ne veut pas d'exception pour cette femme courbée. Jésus rétablit l'égalité. Cette femme est fille d'Abraham. Cette façon de dire affirme que la fille d'Abraham vaut autant qu'un fils d'Abraham. Et pour en témoigner, Jésus a pour elle, la femme courbée, encore plus d'attention qu'il n'en avait eu un peu avant pour un homme à la main paralysée qu'il avait précédemment guéri également dans une synagogue, également un jour de sabbat. Fille d'Abraham, c'est-à-dire fille d'humain, et fille de Dieu. Dieu qui n'est pas partial, ainsi que Luc le fait confesser par l'apôtre Pierre dans le livre des Actes. Dieu n'est partial ni vis-à-vis des païens, ni vis-à-vis des femmes. Et le troisième point de vue, justement, est celui de la femme. Tant qu'elle est courbée, elle ne voit pas grand-chose. Seulement le sol, repliée comme elle est. Elle ne peut regarder personne en face. Elle n'est le vis-à-vis de personne. Et Luc insiste, elle était courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. Cette courbure du corps de la femme parle de tous ceux et celles qui ne peuvent se tenir droit dans leur humanité, celles et ceux dont l'humanité ne peut se déployer parce qu'ils sont liés. Dans le récit de Luc, la femme n'est pas tellement malade. Elle est possédée par un esprit qui la contraint, qui la rétrécit, qui l'empêche de se sentir à l'égal de qui que ce soit. Et cela depuis 18 ans. Et 18 ans, ce n'est pas une durée choisie au hasard par Luc. C'est un nombre signifiant l'asservissement dans la Bible. Dans le livre des Juges, par exemple, c'est la durée pendant laquelle les enfants d'Israël sont soumis à la domination cruelle du roi de Moab. Et juste avant ce récit, dans le même chapitre 13 de l'évangile de Luc, Jésus évoque l'effondrement d'une tour, la tour de Siloé, qui a causé la mort de 18 personnes, qui, affirme-t-il, n'étaient pas plus coupables que les autres habitants de Jérusalem pour mourir de cette manière. Mais croire que ces 18 personnes sont mortes écrasées par la tour de Siloé parce qu'elles étaient coupables, cela contribue à maintenir les gens liés, ligotés, dans la peur de mourir et avant cela, dans la peur de vivre. 18 ans courbés, 18 ans liés, écrasés, dans l'impossibilité de faire face à qui que ce soit, même pas à sa propre vie. La mention que de l'esprit qui la courbe ou de Satan qui la lie indique qu'il s'agit d'une atteinte à l'humanité, d'une souffrance qui altère l'existence en tant que l'existence pour toutes les Écritures est existence en relation avec autrui. Ce qui a servi cette femme, la ligote, l'entrave, la plie, correspond à tout ce qui peut réduire l'humanité d'un humain et réduire l'humain en esclavage sous une oppression quelle qu'elle soit, par une humiliation quelle qu'elle soit. Mais par la parole de Jésus, et déjà avant la parole, par le regard de Jésus qui la voit, cette femme devient un sujet. Non plus un objet auquel on peut ne pas prêter attention, non pas non plus l'objet d'un discours, de paroles tombant sur son dos courbé ou même sur son dos redressé comme cherche encore à le faire le chef de la synagogue. Jésus fait d'elle le sujet d'une rencontre dans laquelle, par laquelle, il la délivre de ce qui pèse sur elle, en particulier la marginalisation, la mise à l'écart par ceux qui sont plus intéressés par leur propre personne, leur influence et l'ordre qu'ils servent et imposent, même quand c'est un ordre religieux. Or, dit Jésus, cette femme est libre. Mais elle n'en avait pas conscience. Elle l'ignorait. Et c'est ce que Jésus voit et qu'il annonce avant même de lui imposer les mains. Elle est libre parce qu'elle est une fille d'Abraham, fille d'humain, fille de Dieu. La parole et le geste de Jésus la rendent à cette dignité qui était la sienne, mais que personne ne reconnaissait. Et redressée, elle se met à glorifier Dieu. Elle devient interlocutrice de Dieu directement. Irénée, un père de l'Église, évêque de Lyon à la fin du IIe siècle, est l'auteur d'une phrase célèbre. « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. La vie de l'homme, c'est de contempler Dieu. » Et c'est exactement la même chose pour les femmes. Vivantes et debout, redressées, elles sont la gloire de Dieu, toutes ces femmes, ici et ailleurs. Il n'y a pas de femme objet, ni d'homme objet autrement que dans des regards d'hommes ou de femmes assoiffés de pouvoir sur autrui et qui usent de discours religieux, techniques, professionnels, théoriques et souvent atrocement sommaires. Et la question qui se pose est celle du jour de la reconnaissance de cette liberté et de cette dignité. Pour le chef de la synagogue, le jour du sabbat n'est pas le bon jour pour cela. Alors que pour Jésus, c'est le jour pour le faire. Simplement parce que c'est le jour où cette femme était là et où il l'a vue. Le chef de la synagogue pense qu'il y a un temps pour chaque chose. Et nous savons bien que cette conviction entraîne que ce n'est jamais le temps pour certaines choses. On verra plus tard, quand les conditions se prêteront mieux. Ce n'est jamais le temps pour certaines choses, et particulièrement pour reconnaître, non en théorie, mais en pratique, la dignité et la liberté de telle ou telle personne, de tel ou tel groupe de personnes. Pour Jésus, le sabbat est un bon jour pour délivrer la femme courbée. Et justement parce que le jour du sabbat est celui de la célébration de la délivrance d'Israël par l'Éternel, selon le livre du Deutéronome. Un très bon jour pour délivrer une femme courbée. Et c'est manquer le sens profond et véritable du sabbat de prétendre qu'il ne faut pas guérir, relever, redresser, libérer un être humain ce jour-là. Mais plus encore, pour Jésus, la loi permet de guérir, de redresser, de libérer, de rendre sa dignité à n'importe quelle femme, à n'importe quel homme, n'importe quel jour. Selon l'Évangile, la liberté et la dignité n'attendent pas pour toutes les femmes et pour tous les hommes. C'est pour aujourd'hui. Amen. Je vous invite à vous lever pour vous associer à cette confession de foi. Dans un monde angoissé par le futur, par toutes les crises actuelles, nous croyons en Dieu qui donne quotidiennement et éternellement confiance et espérance. Là où le mal abonde, il donne, et sa grâce jaillit et surabonde. Là où nous vivons en déracinés, il donne, et les éclats de sa parole éclairent nos routes. Là où les soucis nous rongent, il donne, et une brèche s'ouvre dans les murs d'anxiété. Nous croyons en Dieu qui donne quotidiennement et éternellement, inconditionnellement et gratuitement, qui est venu à nous en Jésus le Christ, notre frère, et qui nous encourage par l'Esprit Saint à vivre de son inaltérable bonté. Amen. Asseyez-vous. Voici le moment de partager les annonces. D'abord, je voudrais remercier notre ami Patrick qui est à l'orgue ce matin, parce que ça n'est qu'hier qu'il a appris qu'il était invité à accompagner ce culte. Donc, merci beaucoup à lui d'avoir ainsi, presque au pied levé, apporté et de ô combien belle manière l'élévation musicale qui nous est tellement précieuse. Ensuite, pour aujourd'hui, il y a, comme tous les dimanches, la collecte au profit de l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge. Et puis aujourd'hui, une nouveauté, c'est la première édition de la nouvelle formule des jeunes et moins jeunes, c'est-à-dire que tout le monde est concerné, et qu'après le culte, tous ceux qui le souhaitent peuvent se retrouver dans la salle du deuxième étage. Alors certains ont déjà apporté un quelque chose à partager. Si vous ne l'avez pas encore apporté, c'est peut-être parce que vous voulez aller l'acheter tout à l'heure au marché. Et si vous n'avez rien du tout, c'est pas grave, vous venez quand même. Et autour, pendant ce repas improvisé, fraternel et sans après, eh bien nous écouterons dans un premier temps, Zélie Victor, qui est là là-bas. Tu veux bien te lever, Zélie, pour qu'on voit qui tu es. Voilà, Zélie Victor, qui est donc qui fait partie de la paroisse du Foyer de l'âme et qui interviendra pour nous parler à partir de son point de vue. Zélie travaille pour le réseau Action Climat, une association qui fédère plusieurs organismes, associations œuvrant pour la lutte contre le réchauffement climatique. Et donc, Zélie travaille particulièrement dans la transition énergétique. Voilà. Et elle nous en parlera donc de manière très simple pendant ce repas. Nous pourrons discuter avec elle et puis aussi discuter les uns avec les autres. Voilà, un temps de rencontre, de convivialité, d'échange. Et c'est ainsi aussi que se tisse une communauté dans ces communions-là. Ensuite, dans la semaine qui vient, alors il y a beaucoup de choses à noter. D'abord, mardi 11, c'est la reprise de la pause biblique du mardi. C'est cette rencontre aussi autour d'un repas, préparé par Nicole Gigliottine, rencontre biblique, comme son nom l'indique. Le groupe a choisi cette année de lire des passages de l'évangile de Jean sur le thème des rencontres dans l'évangile de Jean. Et mardi, ce sera donc la première de ces rencontres. Et la première rencontre avec l'évangile de Jean, ce sera le prologue. Voilà, donc c'est à partir de 11h30 jusqu'à 13h30 à peu près. Et mardi 11 au soir, c'est le conseil presbytéral qui se réunira pour sa session du mois d'octobre. Ensuite, à mercredi 12, eh bien, c'est le groupe biblique, l'autre groupe biblique qui lui est du soir, un groupe du soir, se réunira à 19h30 dans la salle du deuxième, un groupe qui lui a décidé de lire des extraits du livre de Job pendant tout le cours de l'année. Jeudi 13, ce sera la pause spirituelle à 12h30 pendant une heure dans le temple. Musique, silence, lecture, partage, prière. Et puis vendredi 14, ce sera la reprise du groupe Théo et Psycho. Et si vous y êtes intéressé, veuillez vous adresser à Françoise, qui est là, en vert, et qui vous donnera tous les renseignements nécessaires. Samedi 15, ce sera le groupe Évangile et Liberté, qui se réunira lui aussi au deuxième étage, à 10h30 jusqu'à midi, autour d'un article de l'avant-dernier numéro paru. Dimanche 16, il y aura avant le culte une réunion des parents des enfants de l'école biblique et du pré-caté. Nous ferons connaissance avec eux, nous leur expliquerons un peu ce qui se passera pour les enfants cette année. Ensuite, à 10h30, bien sûr, il y aura le culte avec la présence des enfants dans la première partie. Et puis, vous signalez que l'après-midi, j'interviens aux entretiens de Robinson, une série d'entretiens, de conférences en fait, organisées par la paroisse de Robinson à Châtenay-Malabry tous les ans sur un thème particulier. Ce mois-ci, c'est le thème de l'espérance. Cette année, pardon, c'est le thème de l'espérance. Et dimanche, c'est moi qui interviendrai à la paroisse de Robinson donc, sur ce thème. Je voudrais aussi vous rappeler qu'il y a sur la table du fond des petites cartes, il n'y en a pas ici, pour la journée du christianisme social qui est organisée le samedi 22 octobre prochain sur le thème de l'égalité des hommes et des femmes. Donc toute une journée avec différentes interventions philosophiques, historiques et surtout bibliques par le professeur François Vouga que nous avions reçu ici. Donc plusieurs intervenants et en biblique particulièrement le professeur François Vouga et puis moi un tout petit peu pour commencer la journée. Il faut vous inscrire pour la préparation du repas, donc n'hésitez pas, prenez les cartes sur la table du fond pour vous inscrire. C'est une journée qui a lieu à l'Institut protestant de théologie à Paris. Françoise a une annonce à nous faire.
Merci. Alors, ça ne concerne pas Théo et Psy, mais ça concerne une exposition qui s'intitule « Mer, navire, avion, la traversée de la Méditerranée racontée par de jeunes exilés ». Cette exposition est issue de plusieurs recherches menées par des historiens, des sociologues, des linguistes qui souhaitent faire connaître au grand public la manière dont ils sont rentrés en relation avec ces jeunes exilés et les productions auxquelles ça a pu donner lieu et qui donnent lieu à cette exposition. Elle a lieu du 5 octobre au 9 décembre 2022 au Grand Équipement Documentaire à Aubervilliers, à l'espace Françoise Héritier, qui est une historienne de la protection de l'enfance assez connue, entre autres choses. Et l'exposition qui parle de cet exil, la traversée de la Méditerranée, est conçue en 4 escales. Une plus historique qui concerne la période des années 40-60 et la manière dont des jeunes algériens, donc encore sous le régime colonial, viennent en France et se représentent leur venue en France et les relations entre chez eux, la France, ce qu'ils viennent faire là, etc. C'est un travail issu de production d'archives dans un centre d'observation de la justice des mineurs de l'époque. La deuxième escale propose un parcours dans la littérature contemporaine. À Clermont-Ferrand, il y a des chercheurs qui se sont regroupés avec des auteurs et qui ont réussi à écrire avec des jeunes exilés. Donc, c'est la représentation aussi de leur chemin. La troisième escale concerne un projet qui a eu lieu en Seine-Saint-Denis, qui a regroupé aussi un laboratoire de recherche et le conseil départemental, et qui est à la fois historique, parce qu'il y a un chercheur qui a travaillé sur des archives entre les années 90 et les années actuelles sur l'évolution de ces traversées, et aussi des ateliers de cartographie sensible, des dessins, mais des cartes dessinées par les jeunes qui parlent, qui disent des choses sur leur exil. Et la quatrième escale est issue d'une recherche collaborative entre des chercheurs en sociolinguistique et en pédagogie qui réunissent dans un centre d'insertion de la PJJ et qui ont fait appel aussi à des méthodes de cartographie participative, de dessin, de chansons, qui ont appris énormément de choses et qui sont l'objet de cette quatrième escale exposée. Voilà. Si vous souhaitez que nous fassions un groupe pour les gens intéressés, contactez-moi. J'ai mis une affiche dans l'entrée. Je mettrai mon nom et je rajouterai mon nom et mon téléphone ou mon mail. Et je pense que pour les gens intéressés, le plus simple, ce serait de former un groupe, ce qui permettrait de faire une visite un peu guidée pour les gens que ça intéresse, par moi, par d'autres aussi, et notamment par Mathias Gardet, l'historien qui est à l'origine de cette exposition. Voilà, merci.
D'autant plus intéressant que le groupe de jeunes adultes qui se réunira, pas la semaine prochaine, mais la suivante, traitera justement du thème de l'exil dans sa prochaine rencontre. Est-ce qu'il y a d'autres annonces ?
Oui. Bonjour. Donc, il y a le cinéma du Foyer de l'Âme, jeudi prochain. Le mois dernier, nous avons eu M. Smith au Sénat américain à Washington. Et jeudi prochain, je vous propose les coulisses du Kremlin. Enfin, il y a 70 ans, Vladimir Poutine était tout bébé. Ça s'appelle La mort de Staline. C'est un film de Armando Iannucci avec Steve Buscemi. Je dis les noms exprès parce que ce n'est pas un film italien du tout. C'est un film britannique qui est tiré d'un roman graphique français et qui raconte les luttes qui ont suivi la mort de Staline pour succéder au petit père des peuples. Le récit est fait d'une... une façon comique, voire farce. Vous verrez l'affichette dans le hall. Il n'y a pas besoin de parler anglais, parce que c'est l'affiche anglaise, mais pour savoir ce que veut dire « a comedy of terrors ». C'est assez drôle et quand même grinçant. Un indice, le personnage de Molotov est incarné par Michael Palin, qui était l'un des Monty Python. Voilà, ça vous donne un peu le... C'est pas un film Monty Python. Donc c'est jeudi à 19h45 et donc c'est précédé d'un casse-croûte partagé à 19h pour ceux qui veulent. Vous avez peut-être remarqué que je ne me déplace pas avec une extrême facilité. S'il y avait une bonne âme avec deux bras pour venir à 18h30 pour m'aider un peu, merci de me le signaler.
Alors, si toutes les annonces ont été faites, eh bien, voici le temps de l'offrande. Voici le moment d'une solidarité, d'une confession de foi, d'une louange. Et pendant l'offrande, je vous invite à vous lever pour chanter au cantique 272, « Ô mon Père, ma prière ». Nous nous réunissons dans la prière d'intercession qui sera pour ce dimanche une actualisation de la prière du Notre Père par le pasteur Louis Simon. Notre Père qui était dans les cieux, tu es venu habiter le cœur de tout homme, de toute femme qui t'accueille, et tu appelles inlassablement celui, celle qui te refuse encore. Tu as uni inséparablement le nom de Dieu à celui de tendresse et de miséricorde, au point que nous pouvons à la fois t'appeler Père et Mère pour mieux reconnaître l'amour que tu as dans le cœur. Ton règne sera la réalisation de ton grand rêve de Créateur, que tous les êtres humains librement créent et suscitent un monde de beauté, de fraternité et de justice. Ta volonté, tu l'as faite connaître en Jésus, que nous transformions cette terre douloureuse en un lieu où la justice habite et où nous nous aimions les uns les autres. Tu nous as partagé ton pain, ta vie, ton esprit. Tu nous as montré que lorsqu'un homme même seul commence à partager, il entraîne des milliers d'autres à suivre son exemple. Et nous savons qu'il y a assez de pain pour tous dès le moment où nous partageons le nôtre. Tu nous as si bien pardonné que tu nous as appris le tact, le respect, la joie avec lesquelles nous pourrons nous réconcilier avec nos frères et nos sœurs. Tu nous tentes et nous appelles avec persévérance. Tu ne nous laisses jamais tranquilles dans notre médiocrité, dans notre inertie, dans nos peurs. Tu nous tentes par l'amour, la beauté, l'espérance, la fraternité humaine, et nous ne résisterons pas toujours à tes fidèles tentations. Ainsi, un jour, le monde sera délivré du mal. Amen. Je vous invite à vous lever pour entendre l'exhortation et puis nous chanterons le dernier spontané avant la bénédiction. Le règne de Dieu n'est pas loin. Il est là, à portée de notre regard et de nos mains, de notre cœur. Il s'écrit avec les mots de l'Évangile, le mot « paix ». Que la paix soit avec vous. Le mot amour, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et le mot pardon, Père, pardonne-leur. Nous chantons.
Thank you.
jeunes et moins jeunes, frères et sœurs, l'Éternel nous bénit et nous garde, et il nous donne de devenir bénédiction, signe de vie et de paix pour celles et ceux qui nous entourent. Amen.